Salut, c'est Simon. Juste avant de passer à l'interview du jour, je voulais vous parler du programme de formation de la No Code Family. Alors ce programme, c'est pas une énième formation aux outils No Code, il y en a déjà plein sur internet et elles sont très complètes. Ici, il s'agit d'un programme complet qui va vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel ou dans le lancement de votre side project, et même si vous ne savez pas coder. Alors comment trouver son idée, quelles sont les erreurs à éviter, comment trouver ses futurs clients, comment créer son prototype, quelles sont les questions à se poser pour créer son statut, toutes ces questions sont abordées dans ce programme en vidéo, accessible à votre rythme. Alors rendez-vous vite sur www.nocode.family pour découvrir le programme et vous lancer dès aujourd'hui. Le lien est aussi disponible en description de l'épisode. Bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans No Code Family, le podcast qui t'aide à te lancer sans savoir coder.
Pour nous, on n'est pas les seuls à penser ça, le no code est très lié à la démarche d'une startup, au gros hacking, toutes ces choses-là, toute cette manière de lancer des projets hyper vite. Et donc forcément, la landing page, c'est un peu le premier point là-dedans, le premier point du funnel.
Chaque semaine, on rencontre celles et ceux qui développent leur business sans faire une ligne de code.
Pour moi, aujourd'hui, la promesse du no-code, c'est qu'on n'a plus besoin de fake it. On peut vraiment faire ses prototypes, on peut faire vraiment des choses fonctionnelles.
Alors toi aussi, abonne-toi et rejoins la no-code family. Salut Alexis.
Salut.
Alors, qui es-tu ?
Eh ben, je m'appelle Alexis, j'ai 37 ans et je suis le cofondateur de Contournement. Avant ça, je pense qu'avant tout, on peut dire que je suis un nerd passionné d'informatique depuis longtemps, depuis mon plus jeune âge. J'ai découvert le web en 96. Je pense que c'était un peu un tournant dans ma vie qui m'a amené à ce qu'on se parle aujourd'hui. Hein, je pense si je remonte aussi loin. Mmh. Voilà, c'est là aussi, même, je pense que j'ai découvert les premiers outils no code. J'ai fait mon premier site avec FrontPage de Microsoft. Je pense que c'est un outil qui est complètement tombé dans l'oubli.
ouais, ça nous rappelle des vieux souvenirs.
Exactement. Mais donc, c'est le web qui m'a amené à devenir développeur, qui m'a amené plus tard à faire des études là-dedans, à être CTO de plusieurs startups. Enfin, voilà. Bref, ça fait 15 ans que je bosse dans la tech. Et puis maintenant, avec cet angle du no-code.
Alors, c'est quoi, toi, ta définition du no-code exactement ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Il y a plein de définitions. Moi, j'en ai une qui est très simple. C'est que pour moi, le no-code, c'est tout simplement les nouvelles technologies qui permettent d'effectuer des choses, des actions, de réaliser des projets qui, avant, n'étaient pas possibles sans faire appel à des développeurs. Donc je sais qu'après, dans la communauté, il y a pas mal de discussions là-dessus. Nous, on en a régulièrement, notamment avec Thibaut d'AutoTools. On aime bien échanger et débattre. Et une vision plus vraiment côté application. Et le no-code, c'est les outils qui permettent de créer des applications. J'espère qu'il ne m'en voudra pas si je dis ça, mais on en a parlé encore récemment. Mais voilà, moi pour moi, c'est vraiment beaucoup plus large. C'est pour ça que nous, souvent, on remonte un peu, quand on parle du premier outil no-code, on remonte à VisiCalc en 79, premier tableur, parce que finalement, c'était la première fois que les gens n'avaient plus besoin d'écrire du code pour effectuer des calculs sur leur base de données, sur leur table, etc. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, Zapier, c'est un outil no-code, ça permet de facilement effectuer, interconnecter des outils, automatiser des actions, des choses qui étaient, il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment réservé à des développeurs, je veux dire, se connecter à des API, tout ça, il n'y avait qu'en code qu'on pouvait le faire. Ou un autre exemple, Airtable, c'est vraiment deux outils que j'aime beaucoup, quoi, donc c'est pour ça que j'en parle directement, mais Airtable, voilà, c'est donner accès à tout le monde, à la gestion de bases de données relationnelles. Voilà, ça c'est pareil, hein, avant, je veux dire, moi j'ai géré des bases de données SQL, mais j'ai dû apprendre tout ça. Enfin, il n'y avait pas d'outils, quoi. Ça, c'était des lignes de code, des requêtes, choses comme ça assez obscures. Donc voilà, pour moi, le no-code, c'est la démocratisation de toutes ces choses qui étaient auparavant réservées à des développeurs.
Ok, alors tu parlais de front page en remontant très loin dans le passé, mais plus récemment, comment est-ce que tu es venu, toi, à t'intéresser au no-code ? Parce que tu dis que tu as plutôt un profil de développeur, que tu as été CTO. Comment est-ce que tu es, entre guillemets, sorti un peu du code et que tu t'es intéressé à des outils te permettant de réaliser presque la même chose sans coder? C'est quoi un peu le point de départ de ton intérêt pour ce sujet-là, toi?
C'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça de développeurs dans la communauté no-code. En fait, j'ai remarqué que souvent, les gens, ils venaient au no-code par le besoin, justement, de lancer des projets, de faire des choses sans forcément pouvoir faire appel à des développeurs. Bah, moi, c'est un peu différent. En fait, c'est pas finalement moi vraiment qui ai fait cette découverte, c'est plutôt mon associé, Erwan Kézard, que j'ai rencontré dans la boîte où je bossais précédemment, Simplon, dont il est l'inventeur et le cofondateur. Et c'est lui, en 2015, en fait, qui a découvert Bubble. Alors, je sais plus trop comment exactement, on lui fait énormément de veille sur Product Hunt, c'est un fanat de toutes ces choses-là. Et il a découvert Bubble, il a échangé avec eux, donc en 2015 c'était vraiment les débuts, enfin, il me semble qu'ils se sont lancés en 2012-2013. Il nous a amené ça, il nous a dit ouais, j'ai découvert ça. Et nous au début c'est vrai que bah, forcément Simplon c'était une école de dev, tout le monde, enfin il y avait beaucoup de développeurs, ils disaient bon ok c'est quoi ce truc. Et puis on a testé, on a vu que c'était pas encore complètement mature, mais qu'il y avait du potentiel, quoi. Et puis on a formé un petit peu des élèves dessus, mais bon, finalement c'était pas très concluant. Mais lui a continué toujours à suivre ça. Il avait même eu l'occasion à l'époque d'échanger avec Emmanuel, le cofondateur de Bubble. Voilà. Et donc lui, il est resté toujours là-dedans. Moi, j'étais vraiment dans la technique, dans le code. Et puis finalement, il est parti de Simplon, moi aussi. Et puis on s'est retrouvé en 2018. Et lui, il avait continué, comme je disais, à regarder tous ces outils, vraiment tous ces outils qui permettent de démocratiser finalement l'accès au code, ben, un petit peu comme je disais dans ma définition. Lui, c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé, c'était aussi un peu une des missions de Simplon à la base. Et donc, on s'en est reparlé, il m'a dit « Ouais, t'as vu Airtable, t'as vu Coda, t'as vu toutes ces choses-là. » Moi, j'avoue, j'avais pas vu, mais j'ai commencé à regarder. Et puis voilà, de proche en proche, j'ai découvert Webflow. Je pense que peut-être ce qui m'a fait vraiment basculer, c'est Webflow, parce qu'en fait, c'est le premier outil où je me suis dit non seulement c'est hyper puissant, mais en plus, en tant que développeur, je comprends ce qu'ils essayent de faire, quoi. Et je vois qu'ils essayent de faire les choses de manière, je sais pas comment dire, orthodoxe, on va dire. Voilà. Ils essayent de générer du code qui est propre, d'essayer de respecter les standards du web. C'est pas du Wix où on fait des drag and drop. Ouais. Je vais pas dire forcément du mal de Wix, c'est un outil qui est très utilisé, qu'on peut même inclure dans les outils no code. Mais, voilà, là je me suis dit ok, il y a du potentiel, pareil sur Airtable, pareil sur Zapier, puis comment on interconnecte toutes ces choses là et puis en fait après ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit tous les deux à la recherche de projets, on s'est dit bah voilà, nous on connaît bien la formation, Erwan il fait de la formation depuis 10 ans, moi aussi à Simplon j'ai eu l'occasion de former beaucoup de débutants, on s'est dit bah pourquoi est-ce qu'on ferait pas des formations sur ces outils. Pour l'instant personne n'en fait en France. En tout cas, on connaissait en tout cas personne à l'époque. Ouais. Et donc voilà, c'est aussi un petit peu venu comme ça. C'est aussi un peu venu par l'opportunité. Et donc voilà, on est vraiment rentré là-dedans par cet intérêt de démocratisation des technologies, j'ai envie de dire. Et puis après, par l'opportunité un petit peu plus business, de se dire bah, essayons de prendre une place là-dedans en France et d'apporter nos compétences à tout ça.
Donc on va pouvoir reparler hein, plus en détail effectivement des formations que vous avez lancées et de contournement. Avant ça, puisque du coup, voilà, ça fait plusieurs années que tu observes cette communauté, que désormais vous avez un rôle assez clé et actif avec contournement. Pour toi, c'est quoi un peu les grandes tendances que tu observes dans le no-code aujourd'hui ?
Alors... Il y a pas mal de choses, quoi. Ça bouge pas mal, en tout cas quand on est à l'intérieur de la bulle, on va dire, un peu du no-code. On va pas se mentir, c'est pas encore non plus quelque chose qui est très mainstream. Ouais. On fait beaucoup de veille, hein, comme tout le monde. Donc ce qu'on voit, nous, notamment sur Product Hunt, je pense que c'est le meilleur endroit pour essayer un petit peu de sentir les tendances. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un nouvel outil de landing page qui sort. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu le rush. Tout le monde se dit, OK, on va essayer de faciliter au plus la création de landing page pour les gens. Ce qui fait du sens, puisque pour nous, on n'est pas les seuls à penser ça, le no-code est très lié à la démarche Lean Startup, au gros hacking, toutes ces choses-là, toute cette manière de lancer des projets hyper vite. Et donc forcément, la landing page, c'est un peu le premier point là-dedans, le premier point du funnel. Il y a même toute cette tendance un peu qui me paraît un peu dépassée, mais du fake it until you make it et tout ça passe toujours par une landing page. Pour moi aujourd'hui, la promesse du no-code, c'est qu'on n'a plus besoin de fake it, on peut vraiment faire ses prototypes, on peut faire vraiment des choses fonctionnelles, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, donc ça c'est un des trucs, c'est pas forcément la tendance qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est tous ces outils qui se lancent avec des parties pris très forts. Je pense à Glide, par exemple, qui pour moi est vraiment un des outils les plus révolutionnaires. Alors, vous en avez pas mal parlé dans l'épisode avec Stan, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais voilà, il y a un parti pris, quoi. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de faire un outil générique. On dit, OK, déjà, il faut que tu aies une Google Sheet. Si tu n'as pas de Google Sheet, tu ne peux pas utiliser Glide. Et on va tout cadrer comme ça. Ça, je trouve ça intéressant. Si j'en reviens au landing page...
Donc, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est la verticalisation ou le côté... quand je dis verticalisation, c'est-à-dire vraiment ce côté, tu as un use case que tu peux vraiment réaliser avec Glide et ils sont spécialisés là-dessus. Ou alors, c'est plutôt, comme tu le disais dans ta réponse, le côté cadré. C'est-à-dire, tu peux pas être si libre que ça avec Glide, mais en même temps, bah, ils font bien ce qu'ils te permettent de faire. C'est quoi qui t'intéresse le plus, finalement, dans une appli comme ça?
Alors, les deux m'intéressent. Les deux sont des parties pris qui m'intéressent. Dans le cas de Glide, c'est plutôt la deuxième chose, comme tu dis, c'est qu'ils cadrent vraiment ta manière de faire. Par contre, tu peux faire un peu tout avec. C'est-à-dire que tu peux faire une marketplace pour vendre des chaussures, tu peux faire un réseau social. Alors, quand je dis ça, évidemment, un peu frugal, hein, comme on peut faire dans Glide, mais tu peux faire des choses différentes, tu peux faire des outils internes, tu peux faire un trombinoscope. Voilà, les use cases sont infinis, mais effectivement, t'es très cadré. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est les outils qui ont un parti pris plus de use case, c'est-à-dire par exemple ShareTribe. Aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur outil pour faire une marketplace. Certaines personnes vont dire le meilleur outil pour faire une marketplace, c'est Bubble. En fait, Bubble, de toute façon, c'est le meilleur outil no-code pour tout faire. C'est celui qui est le plus générique. Mais c'est aussi, je trouve, celui qui, du coup, est le plus compliqué à apprendre. C'est celui qui a la courbe d'apprentissage la plus importante. Alors que si on veut faire une marketplace, à mon avis, utiliser ShareTribe, c'est la meilleure option, quoi. Parce que ça correspond à ce use case.
Pour toi, la grande tendance vraiment à regarder dans le no-code, enfin, qui aujourd'hui te semble vraiment intéressant dans le no-code, c'est cette spécialisation des outils et le fait que ils te permettent, avec des fonctionnalités un peu cadrées, de pouvoir rapidement réaliser ce que tu cherches à faire. Et ils sont très spécialisés sur, par exemple ici, les marketplaces et cette ultra spécialisation des outils qui te paraît intéressante aujourd'hui dans la communauté, quoi.
Ouais, exactement. Moi, c'est ça, en tout cas, que j'ai envie de suivre, et moins les outils génériques, moins les website builders. Tu vois, même si je reviens sur l'exemple des landing pages, il y en a un quand même que j'aime bien. Il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle Landen, et que je trouve intéressant parce que c'est pareil, en fait, il a un parti pris fort de cadrage, c'est-à-dire que tu peux jamais faire des drag and drop d'éléments, mettre les trucs où tu veux, tu fais que de remplir des sections, mais du coup, un, ça va hyper vite, tu es toujours sûr d'avoir un truc qui va être quand même beau et consistant, et en plus, ça va t'aider à convertir parce que le mec a déjà tout fait la structure pour que, tu vois, tu puisses pas faire des erreurs, en même temps, on va dire que ce cadrage te donne les bonnes pratiques de conversion, par exemple, pour les landing pages, puisque c'est souvent un peu un des enjeux, quoi.
Ouais, ok. Donc, on commençait à l'évoquer tout à l'heure, on commençait à parler de ton activité avec Contournement. Je disais que tu étais, un des acteurs un peu clés et justement assez actif en France sur le sujet. Du coup, pour bien comprendre, finalement, ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Contournement, d'où ça vient et aujourd'hui quelle est un peu votre offre?
Alors, en fait, Contournement, ça a pas mal évolué. Donc, on s'est lancé il y a un an seulement, finalement. Mais entre-temps, on a quand même pivoté pas mal de fois, et notamment du fait des circonstances qu'il y a eu, du Covid, etc. À la base, on va dire que vraiment l'idée de base, si je dois aller un peu la vulgariser, et on en est loin maintenant, mais c'était vraiment de faire le wagon du no-code. Je pense que tu es familier avec le wagon, donc une école de code.
Bootcamp pour apprendre à développer. Ouais.
Voilà, exactement. 9 semaines, très efficace, et aussi destiné aux gens qui veulent pas forcément devenir développeurs, mais aussi lancer des projets, ces choses-là. Quoi. On se disait, voilà, il y a une opportunité à faire la même chose avec les compétences qu'on a, on peut faire ça. On a travaillé sur l'été dessus, et puis très vite, en fait, ce qu'on a lancé aussi, c'est une communauté, donc on a lancé un Slack, où on a commencé à essayer de faire vivre une communauté de tous les gens qui étaient intéressés de près ou de loin par le no-code. Et puis, on a fait beaucoup d'événements gratuits, vraiment pour évangéliser, on va dire, autour de ces technologies. Et puis, je vais faire court, pas faire tous les détails, mais globalement, on a pas mal pivoté. On a vu qu'il n'y avait pas forcément d'opportunité de faire ce wagon du no-code, en tout cas pour l'instant. Et puis après, de toute façon, tout ce qui était présentiel s'est arrêté, malheureusement. Donc, ce qui est resté, finalement, c'est cette communauté. qui est aujourd'hui un peu, j'ai envie de dire, la communauté francophone du no-code. C'est pas qu'on veuille se l'attribuer vraiment, mais de fait, c'est un peu devenu ça. Et nous, on a vraiment envie que ça soit ouvert, que les gens s'en emparent, et c'est le cas. Maintenant, il y a presque 600 personnes dessus, et le contrôle commence un petit peu à nous échapper, et c'est tant mieux. On voit plein de choses qui se passent, des gens qui se rencontrent. Nous, on a l'occasion de faire plein de belles rencontres grâce à ça. On a vu des projets émerger. Donc ça, c'est assez chouette. Donc aujourd'hui, contournement, si je dois résumer, c'est cette communauté. Et évidemment, des formations, puisque ça, c'était notre projet initial. On en avait d'autres. On pensait peut-être faire de la prestation, de la production. On en a même fait un petit peu, enfin, du conseil. Voilà. Mais aujourd'hui, on a vraiment resserré les choses. Et aujourd'hui, c'est cette communauté et des formations en ligne uniquement, asynchrone. Donc on peut suivre seul, à son rythme. Pour l'instant, c'est des modules assez courts, c'est des choses qui durent entre 1 et 3 jours, si on les suit d'affilée, quoi, entre 7 et 20 heures. Et puis voilà, on a d'autres choses qui sont dans les cartons, mais on prend un petit peu le temps de voir. On a pivoté plusieurs fois. Maintenant, on a des produits qui sont là, qui se vendent, qui sont... sur lequel on prend notre temps aussi parce qu'on veut itérer. Enfin, nous, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment des adeptes du Lean Startup. C'est pour ça qu'on a pivoté autant de fois. On essaie d'appliquer ce qu'on prêche et ce qu'on enseigne dans nos formations et dans nos webinars. Donc voilà, donc là, on est dans une phase où on a mis ces formations en ligne. On estime que c'est des MVP hein, quand même de nos formations, globalement. Et on itère dessus. On a de la chance, justement, grâce à cette communauté, d'avoir plein de retours hyper... qualitatif et quantitatif, hein, et donc on itère sur ces formations et on les améliore pour en faire vraiment des best-sellers, j'ai envie de dire.
Okay.
On est encore loin de ce qu'on voudrait, notamment un peu sur la production technique, parce que c'est un peu là où on est les moins bons. Par contre, on met vraiment tout sur la pédagogie. Nous, notre ambition, c'est d'arriver à vraiment embarquer n'importe qui, même des gens qui n'ont aucune compétence technique. On va dire, à partir du moment où tu sais utiliser ta souris, tu dois pouvoir suivre notre formation, quoi.
Ok. Tu disais tout à l'heure que vous êtes assez attaché à ces méthodes lean, etc. Donc vraiment très en amont de son projet, comment est-ce qu'on va aller un peu valider l'intérêt du marché, etc. Est-ce que ça veut dire que vous formez aussi les gens là-dessus ? Et pas uniquement sur les outils et la réalisation de son app, de son prototype. Est-ce que vous avez une approche justement un peu plus globale sur, on va dire, la chaîne de production et de distribution finalement de son projet ?
Alors, j'ai envie de dire oui, mais pas. On va dire qu'on ne fait pas ni des formations vraiment. Je sais pas comment dire, vraiment au côté lean théorique, il y a déjà plein de choses super qui existent là-dessus, ni non plus vraiment au lancement de projet, au gros hacking, acquérir ses preuves, à l'acquisition, ces choses-là. Okay. On va se situer plus au milieu, mais forcément en étant au milieu, il faut faire aussi un peu des deux, quoi. Donc, on a une formation qui s'appelle Side Project, qu'on a fait deux fois, qui était une formation présentielle puis téléprésentielle, mais synchrone, qui durait six semaines. Où les gens, on voyait les gens deux fois par semaine pendant trois heures, le soir, en gros, pour que les gens puissent bosser et puis développent ce side project en dehors de leur boulot. Donc, on a fait deux promos de quatre personnes à chaque fois. Et effectivement, dans ces formations, en fait, on passe pas mal de temps, les deux premières semaines, à cadrer leur projet. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que le problème, c'est que les gens, ils veulent, quand ils ont des idées, ils veulent souvent en mettre trop. Je veux dire, c'est un écueil, tout se passait par là. Et il faut apprendre à couper le bras, la jambe du projet, et à la fin, qu'il reste vraiment ce qu'on appelle le MVP, arriver à trouver cette idée. Donc forcément, nous, on les accompagne là-dedans sans faire... Parce que en fait, ça va être aussi nécessaire pour arriver à cadrer techniquement le projet. Donc il faut d'abord le cadrer fonctionnellement, j'ai envie de dire, savoir où est-ce qu'on va, et définir ce qui a de la valeur pour le projet. Puis ensuite, pouvoir le cadrer techniquement, parce que même que ce soit des outils no-code ou pas no-code, il faut savoir ce qu'on va développer quand on utilise un outil comme Bubble ou Adalo. Notre première formation.
Et par quoi on commence, quelles sont les premières étapes et tout, quoi.
Exactement. Donc nous, on est, en plus du Lean Startup, on est, avec Erwan, on a beaucoup enseigné l'agilité, les méthodologies Scrum, etc. Donc on essaie de bien cadrer les gens, on leur fait faire des user stories, planifier des sprints, des choses comme ça. On a fait notre propre méthodologie, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais à la fois de cadrage, donc synthèse du Lean Startup, la technique là-dedans, Mais vraiment, la technique, nous, moi, je suis un peu un nerd du no-code maintenant. Mais nous, ça a toujours été quand même la technique au service du projet, pas la technique pour la technique. Même quand j'étais développeur, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne suis pas un très bon développeur, parce que je suis bon pour encadrer des gens. Mais ce qui m'intéresse, c'est le projet, quoi. C'est pas de se rentrer dans les détails du code, d'essayer de faire le truc le plus élégant, parce que ça, sinon, on se perd là-dedans. Il faut qu'il y ait des experts comme ça, mais ce qui est important, c'est de livrer des projets, quoi.
Ok, c'est qui les gens qui suivent vos formations du coup ?
Alors, on a beaucoup de porteurs de projets, de gens individuels, hein, enfin, voilà, qui ont un projet, des fois qui sont en poste, des fois qui sont entre deux jobs, des fois qui ont quitté leur job pour lancer leur projet, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. En fait, souvent, le dénominateur commun, c'est qu'ils se retrouvent à ne pas forcément avoir les moyens de faire appel à des développeurs. Parce que bah, voilà, hein, les agences ça coûte cher, enfin, j'en ai géré une pendant 4 ans et de fait hein, quand on fait du développement sur mesure bah, ça coûte cher, c'est normal, mais tout le monde n'en a pas besoin quoi. Donc les gens souvent qui viennent nous voir, qui assistent à nos webinars, bah, ils voient que okay, y a d'autres alternatives, c'est-à-dire que s'ils couplent justement la méthodologie comme on le disait et les bons outils techniques, ils vont avoir une chance d'amorcer leur projet et au moins de lui donner une chance et de voir, nous ce qu'on dit toujours, hein, c'est nous ce qu'on espère, c'est que les gens ils vont réussir à lancer leur projet eux-mêmes, ou en dépensant le moins possible, et qu'ils vont avoir des problèmes de riches et qu'après ils pourront faire appel à une agence, quoi. Ou à des développeurs, à des développeurs spécialisés, ou à des no-codeurs très pointus, hein, pourquoi pas, hein, tout est possible. Donc voilà, on a beaucoup de ça. Après on a aussi, comme on a aussi ces formations sur Airtable, sur Zapier, qui sont plus, on va dire, qui relèvent de la productivité, j'ai envie de dire. J'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est voilà, comment être efficace, ces choses-là. Bah, on a aussi pas mal de freelance, d'indépendants. Et puis, si j'élargis un petit peu ta question à notre communauté, bah, on voit aussi qu'il y a pas mal de gros hackers, il y a pas mal de PM, product manager. Enfin, voilà, un peu des gens qui sont dans l'univers tech, startup en général, et qui viennent parce qu'ils entendent parler du no-code, et parce que ça les intéresse. Et des fois, ils n'ont pas de projet, mais ils ont envie d'en savoir plus sur comment ils pourraient en lancer s'ils en avaient. Okay. Ou alors apprendre à utiliser ces outils pour être plus efficace, tester des choses, enfin automatiser. Voilà, il y a pas mal de choses différentes qui sont possibles.
Ok. Tu dis que vous avez lancé tout ça il y a un an, même s'il y a eu plusieurs pivots et plusieurs versions différentes du projet, mais est-ce que tu as des exemples de produits, d'apps, enfin de projets qui ont été lancés par des gens qui ont suivi vos formations depuis un an, là ?
Ouais, alors bah. Effectivement, on n'a pas encore énormément de recul. Et je pense qu'on va avoir plein de choses, j'espère, à raconter. Mais on a déjà vu quand même des choses assez sympas. Pendant le Covid, en fait, on a vu, tu as peut-être vu ça aussi, hein, une émergence de plein d'applications Glide. Plein de gens qui se sont mis à faire des applications. Donc, il y a des gens qui sont venus dans nos webinars. Forcément, pendant le confinement, on a profité pour faire beaucoup de webinars et de petites formations courtes. Et donc, il y a des gens comme Berthier Luit, qui est un entrepreneur à Saint-Malo, qui a fait une liste des commerces qui étaient ouverts pendant le confinement à Saint-Malo. Il a fait ça en quelques heures avec Glide, après avoir vu un de nos webinars. Et puis, ça a été repris dans le journal, il a eu plein de visites. On a eu Julie aussi, qui a fait une liste de ressources DIY pour que les gens s'occupent pendant le confinement. Il y a Pierre, que Stan évoquait dans ton premier épisode, qui a fait une application pour acheter des repas au personnel de santé. Donc ça, on a eu plein de choses assez intéressantes, plutôt un peu orientées pour aider voilà, pendant cette période un peu de crise. On a fait d'ailleurs un épisode de notre podcast, surtout qu'on a fait en vidéo, en live, où tous ces gens ont raconté un peu leur projet. Erwan aussi, mon associé, a aidé plusieurs associations avec des applications Glide. Et puis après, si je peux parler un peu justement de notre formation Side Project qu'on vient juste de terminer, puisqu'on a eu le démo day la semaine dernière, on a deux... Je vais parler de deux projets, il y en a eu quatre, mais il y a Mélissa qui avait, alors déjà, elle avait découvert le no-code aussi à peu près pendant le Covid ou peut-être un peu avant. Elle avait déjà fait deux applications, elle est basée dans les DOM-TOM et elle avait fait deux applications Glide par rapport au Covid, pour la prévention, etc. Et puis elle a rejoint notre formation Side Project et elle a fait un projet qui s'appelle Boîte à fixe et qui permet de mettre en relation des particuliers avec des artisans dans les DOM-TOM. Parce qu'en fait, en France, il y a plein de choses qui existent pour faire ça. Je veux dire, si on cherche un plombier, il y a plein de plateformes qui vont nous permettre de faire la mise en relation. Mais malheureusement, ces plateformes, ce serait souvent, elles n'existent pas dans les territoires d'outre-mer. Et donc elle s'est dit, bah ok, je veux adresser cette problématique. Et donc elle a rejoint notre programme là, donc en 6 semaines, comme je décrivais, et on l'a aidé à cadrer son projet, à vraiment voir ce qui avait de la valeur. Elle l'a implémenté dans Adalo. Et puis là, elle a quelque chose, je ne sais pas exactement quand elle va le lancer, mais en tout cas, son produit est fonctionnel, son MVP, hein, en tout cas. Mais on peut s'inscrire, on peut faire de la mise en relation. Enfin, ça, vous pouvez voir, elle a fait une démo du coup dans le démo day, donc je donnerai le lien. Mais pour moi, ça, c'est assez emblématique parce que c'est une problématique. C'est en fait le no-code, une des vraies promesses. Et c'est, on n'est pas les seuls à le dire. Hein, Emmanuel, le cofondateur de Bubble, le dit très bien. C'est le no-code, c'est vraiment l'opportunité d'adresser des petits marchés, d'adresser des petits problèmes, entre guillemets, des problèmes qui concernent peu de gens, mais qui ne sont pas adressés par les grosses startups et par tout ce truc de la Silicon Valley que, voilà, si ton marché ne fait pas 10 milliards, tu n'intéresses pas à les VC et tu ne vas pas lever d'argent et compagnie, quoi. Ouais. Et ça c'est dommage, c'est un peu naze. Enfin, voilà. Et donc, pour nous, le no-code, il y a aussi un peu un enjeu là-dessus parce qu'on va réduire le besoin technologique, on va pouvoir aller plus vite. Une personne seule va pouvoir faire une application qui va peut-être être utilisée par juste 2000, 5000 personnes, ce qui est déjà beaucoup, et va résoudre un vrai problème, quoi, local.
Ouais, ça coûte moins cher, c'est plus rapide à déployer, donc on peut s'adresser à des problèmes qui, a priori, sont plus petits, parce qu'ils concernent moins de gens. Mais si on arrive à résoudre ça, c'est déjà un levier de business qui peut être intéressant. 1000 personnes qui paye même 20 euros par mois, ça fait pour une personne seule, ça fait déjà des revenus qui sont hyper conséquents et ça peut déjà faire des vrais beaux succès, quoi. Finalement, c'est ça, pour toi, la vision que vous portez, que vous défendez, quoi.
Exactement. Ouais. Si je peux donner un deuxième exemple juste de la formation Side Project, Barry, qui est venu aussi, et donc elle veut faire pareil, une niche, une application pour permettre aux femmes afro de trouver une coiffeuse ou une maquilleuse pour leur mariage.
Ouais.
Donc c'est bête, hein, comme ça paraissait quelque chose de très, très concret, mais c'est un vrai problème, un vrai pain point les gens n'arrivent pas à résoudre. Et donc elle s'est emparée de ce sujet qui la concerne aussi elle-même. Et pareil, en 6 semaines, elle nous a vraiment bluffé. Elle a fait une marketplace avec le paiement et tout, hein, avec Stripe. Mmh. Là, les gens peuvent percevoir l'argent, elle peut prendre sa commission, tout est fonctionnel. En 6 semaines, quoi.
En 6 semaines, c'est génial.
Ça, c'est grâce à nous, évidemment, c'est aussi grâce à Adalo qui a vraiment, par rapport à Bubble, même si Bubble c'est extrêmement puissant, c'est presque trop en fait. C'est trop, c'est too much pour les gens. Alors que Adalo, on trouve que c'est vraiment juste la juste bonne mesure entre les fonctionnalités, la puissance et l'accessibilité pour permettre d'aller vite et vraiment faire son MVP, quoi.
Ok. Du coup, si moi j'ai une idée et que j'ai envie de me lancer dans un projet, c'est quoi ton conseil? Par quoi est-ce que je démarre?
Je vais résumer un peu ce qu'on s'est dit là, hein, mais globalement, déjà arriver à définir son MVP, quoi. C'est même pas une question technique, c'est arriver à définir qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans son projet et écarter tout le reste. Et s'il y a plusieurs hypothèses, peut-être les tester une par une. Donc ça, c'est la première chose. Et en fonction de ça va permettre de définir l'outil à utiliser.
Mais l'outil, ça vient après, quoi.
Ouais, il faut, à mon avis, il faut toujours le voir après, parce qu'il faut d'abord savoir ce que c'est son MVP et savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser. Il y a certains MVP qui pourront être faits qu'avec Bubble, parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui nécessiteront quand même une certaine complexité. Mais il y en a d'autres peut-être qui peuvent être faits avec Glide. Enfin, je veux dire, nous, concrètement, il y a des gens qui viennent nous voir et des fois on leur dit, mais fais déjà avec Glide. Là, tu vas faire ça, ce que tu veux faire, tu veux le faire en 2 jours, ça peut être en ligne, et tu vas pouvoir aller chercher tes premiers utilisateurs. Et après, tu te poseras des questions, de faire quelque chose de plus évolué, mais déjà là, tu vas pouvoir itérer, avoir embarqué des gens, récolter des adresses email, voilà, et tu n'as pas besoin de faire juste une landing qui dit que ton produit va arriver dans 2 mois, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux premiers points. Et puis après, en fait, le troisième, ça va être de décider comment mettre en œuvre la réalisation technique, j'ai envie de dire. Et donc là, en fait, nous, en général, on recommande... Il y a 3 options, quoi. Il y a soit l'option se former. Forcément, c'est celle que... Enfin, c'est pas celle qu'on recommande le plus, hein. D'ailleurs, c'est celle que nous, on connaît, j'ai envie de dire. C'est celle qui nous paraît intéressante dans le no-code, parce que c'est de s'autonomiser, de vraiment pouvoir être libre. Mais la réalité, c'est que c'est pas la bonne solution pour tous les porteurs de projets. Il y a des gens, très franchement, et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer. On essaye d'être honnête là-dessus. On essaye de pas mentir aux gens et de dire... Vous allez voir, vous allez vous mettre au no-code, dans 2 jours, vous allez avoir votre MVP. C'est pas vrai, il y a des gens, ils vont honnêtement, ça sera plus rentable pour eux d'aller voir un développeur spécialisé dans Bubble qui va travailler 2 semaines et leur livrer un MVP. Et je suis sûr, et j'ai déjà comparé des devis, je sais que ça sera toujours moins cher que d'aller voir une agence. Et ça sera, après, si les gens n'ont pas les moyens, bon, bah, c'est un autre problème, mais souvent, ça va être plus rentable parce que les gens oublient souvent que quand ils portent un projet, il n'y a pas que le projet en lui-même. Après, il faut, bah, comme on disait, acquérir ses clients, faire la communication. Il y a toute une partie administrative potentiellement. Et les porteurs de projets, des fois, oublient qu'il faut qu'ils se concentrent aussi sur ces choses-là et qu'ils auront peut-être plus de valeur sur ces choses-là, parce que c'est eux qui connaissent leur business, que sur vraiment réaliser le produit technique.
Et donc, c'est comme quand on monte une entreprise à plusieurs, on a chacun sa spécialité. Là, la spécialité, elle peut être sur autre chose que la création elle-même du produit. Et donc, on peut très bien travailler avec d'autres personnes pour le faire, quoi.
Exactement. Quand on est seul, je veux dire, le temps, il n'est pas incompressible.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est... Après, on est conscient que c'est une question de moyens. Mais globalement, de ce qu'on a vu, quand même, enfin, voilà, on recommande des petites agences no-code ou des freelances. Et ils bossent hyper bien, ils bossent hyper vite, ils accompagnent bien. Ils font juste ce qu'il y a besoin, il n'y a pas de surenchère. Enfin, je veux dire, dans les agences, honnêtement, une des raisons aussi pour lesquelles je me suis lancé dans ce projet, c'est parce que j'en ai marre de voir des agences faire des devis délirants et puis des gens aussi faire des cahiers des charges qui n'avaient ni queue ni tête. Enfin, tu vois, cette espèce de truc où moi, j'ai reçu des dizaines de cahiers des charges. Bah, des fois, forcément, tu comprends pas bien le cahier des charges, le truc qui fait 40 pages. Pour te protéger, tu vas monter un peu le devis, quoi, parce que tu te dis, bon, bah, si on gagne le projet, que le truc, là, il a l'air compliqué, bah, autant qu'on ait un peu de marge, quoi. Et puis, il y en a qui en rajoutent. Enfin, voilà, après, là, c'est la surenchère absolue, quoi.
Tu as déjà évoqué pas mal d'outils là, depuis le début de la discussion. Tu disais que ceux que tu aimais vraiment beaucoup, c'était Zapier et Airtable. Est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est quoi finalement tes outils no-code préférés à toi, au-delà de ceux que tu peux forcément recommander ou présenter dans tes formations, mais ceux que toi, tu préfères et que tu aimes utiliser un peu au quotidien, c'est lesquels ?
Bah, moi, ce que j'utilise le plus au quotidien, c'est Zapier et Airtable. Parce que c'est ce qu'on utilise aussi pour la gestion, vraiment toutes les opérations, on va dire, de contournement. On a plein d'automatisation, enfin voilà, on est que deux, hein, aussi. On a aussi notre stagiaire Ulysse qui nous aide énormément. Mais globalement, quand il y a une nouvelle personne qui achète une formation, il y a toute une chaîne d'automatisation qui se déclenche, qui génère les factures, qui invite la personne sur Slack, qui la met dans le monde channel, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est, enfin, moi j'adore en plus. Voilà, nous, notre objectif, c'est d'être aussi, encore une fois, être hyper efficace grâce à ces outils, parce que c'est ce qu'on promet aux gens. Donc on a envie d'un peu de montrer l'exemple. Après, sinon, Adalo, Glide, voilà, c'est deux outils qu'on aime beaucoup, comme j'ai dit, sur les parties prix, etc. Moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, je pense, qui est très sous-estimé dans la communauté, qui s'appelle Card. Alors, il me semble que Stan l'a évoqué aussi. Je pense que Card, c'est très sous-estimé parce que je pense que les gens ne voient pas le potentiel. En fait, c'est un outil
qui... Moi, je m'en sers beaucoup, j'adore aussi.
Tu vois, je trouve que c'est un outil qui a deux niveaux d'usage, quoi. C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est génial, tu cliques, t'as une landing page très simple, super jolie, que tu modifies. Mais en fait, c'est aussi un outil qui est... Alors, c'est pas aussi puissant que Webflow, mais c'est pas loin, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est que c'est pas du drag and drop, c'est ça respecte vraiment les standards du web, tout le box model. Enfin, bon, ça, c'est mon côté un peu nerd, un peu monomaniaque, mais, mais voilà. Et en fait, c'est hyper puissant. Et si tu pars from scratch, vraiment d'une page blanche dans Card, tu peux faire quasiment ce que tu veux. Alors, ça va prendre du temps, il faut bien maîtriser l'outil, mais tu peux faire... Ça offre un niveau d'abstraction plus haut que Webflow, mais quand même, en réalité, hyper puissant. Après, je te dis ça, moi, je pars rarement de zéro dans Card, parce que pour la même raison que je pars jamais de zéro dans Webflow, parce que je suis pas designer et que je suis nul en design, donc j'ai besoin de m'appuyer sur des templates. Mais ce que j'aime, c'est que c'est potentiellement possible, en fait, dans Card.
Ouais. Et puis, un autre intérêt de Card, c'est que c'est aussi finalement plutôt ouvert comme outil, et donc on peut facilement le brancher là aussi à Stripe si on veut collecter des paiements, le brancher à un Zapier, pourquoi pas, et donc ça peut devenir finalement la porte d'entrée vers la suite de ton produit, vers de la monétisation, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est très très intéressant. Au-delà des outils que tu viens de nous recommander, c'est quoi toi tes blogs, tes chaînes YouTube, tes newsletters, etc. que tu peux là aussi recommander autour du no-code en France ou à l'international? C'est quoi les ressources un peu que tu peux nous conseiller?
Alors, en fait, en réfléchissant un peu à cette question avant l'enregistrement, je me suis rendu compte que finalement, je lisais pas tant que ça de. Parce que je passe du temps, beaucoup de temps moi-même à créer du contenu, du coup ça m'en laisse moins pour lire celui des autres. Bon, globalement, nous, on suit tous les blogs et tous les comptes Twitter, tous des éditeurs. Enfin voilà, et donc là c'est très riche en termes de contenu. Il y en a, enfin Webflow, ils ont super matériel pédagogique, Zapier aussi, enfin voilà, donc ça c'est des choses qu'on regarde avec attention. Glide aussi, les vidéos de Glide sont juste incroyables. Nous, notre rêve, c'est un peu notre objectif, c'est de pouvoir faire des formations qui soient de cette qualité de production. Après, sinon, en termes de blog, le seul qui me vient, c'est The Toolbox, qui on échange assez souvent. Ils ont pas mal de contenu assez intéressant. Ils sont assez portés sur les outils, forcément, comme leur nom l'indique, notamment sur Notion. Ils ont plein de contenu hyper intéressant sur Notion. Sur YouTube, en fait, en français, j'en connais pas tant que ça. Je sais qu'il y a Shubham qui fait des choses assez cool. Je crois que sa chaîne s'appelle Digital Wink, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il s'est lancé assez récemment, mais c'est assez cool. Et lui a une bonne expérience, expertise déjà sur tout ce qui est grosse acquisition, tout ça. Et donc, il commence à parler de no code. Et puis après, bon, après, enfin, j'ai un peu moins envie de parler de tout ce qui est américain, mais aux États-Unis, il y a un peu une star dans chaque outil, quoi. Il y a Rand Segal sur Webflow, sur Airtable, il y a Garrett Pronovost, Gabi sur Bubble, enfin voilà, il y en a plein. Mais bon, nous, on essaye, c'est pas qu'on veut être en mode franco-français, hein, on est bien connecté avec la communauté US, mais c'est vrai qu'on essaie de plus, on a plus envie de mettre en avant ce qui se fait en France et en français. C'est un peu bête, hein, mais c'est la démocratisation aussi, ça passe par là,
Bien
parce que.
sûr.
Malheureusement, en France, tout le monde ne parle pas anglais aussi bien que qu'on pourrait. Donc voilà. Et puis au niveau
Ah,
newsletter,
justement,
ouais.
est-ce qu'il y a des personnes en France que tu recommanderais, du coup, des comptes Twitter, parce que là, on parlait de blogs, de chaînes, etc. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont vraiment à suivre, sur ce sujet-là en France?
Alors sur Twitter, il y a dans les gens qui sont actifs, bah, il y a Pierre que Stan mentionnait déjà. Qui est un des premiers membres en plus de la communauté Contournement, qui lui en plus est devenu vraiment passionné de no code et très très connecté avec la communauté US, mais donc il tweet en français, en anglais. Enfin, il y a Quentin Villard aussi, chez No Code Essentials, pareil très communauté avec la communauté US, plus même qu'avec la communauté française, j'ai l'impression. Voilà, donc eux c'est un peu les deux sur Twitter. Il y a Louis aussi, Louis de Voma. Qui tweet pas mal, des choses intéressantes. C'est un expert Integromat, enfin plein d'outils no code. Et après, ce que j'ai remarqué, en fait, le no code Twitter est quand même très très américain aujourd'hui. Après, nous, on échange un peu aussi avec Thibaut d'AutoTools, voilà un petit peu, j'ai envie de dire les usual suspects, Stan aussi qui s'est mis. Bon, mais ce que j'ai remarqué par contre, c'est que sur LinkedIn, en fait, il y a d'autres gens sur LinkedIn, quoi. C'est-à-dire que là, dans Twitter, j'ai l'impression que c'est un peu une bulle. Mais que ça me fait pas plaisir à laquelle ça me fait plaisir d'appartenir, mais qui est moins ouverte finalement. Mais c'est un peu, j'ai connu ça il y a longtemps avec les blogs de voyage et tout. Ça fait toujours un peu une espèce de caisse de résonance. Donc c'est sympa pour échanger avec les gens, mais tu sors pas trop de ça et d'autres gens n'y rentrent pas forcément. Alors que sur LinkedIn, je vois bah, par exemple Jérémy de Toolbox, il poste pas mal de choses. Maury de FreeBlaze, pareil, super expert, toutes les technologies no code. Qui fait pas mal de vidéos, qui faisait des webinars, enfin, et donc sur LinkedIn aussi, j'ai l'impression qu'il y a une autre, même Stan aussi, s'est mis à poster pas mal de choses, et donc forcément, ça fait une audience différente, quoi. Et donc, ça fait des discussions un peu plus mixtes, des fois plus controversielles, c'est pas le bon mot, controversées, enfin, tu vois, où, bah, du coup, forcément, dans les gens qui te suivent sur LinkedIn, enfin, on a tous plein de gens qui nous suivent parce que pendant des années, tout le monde a accepté tout le monde et que. Des choses un peu bizarres, mais donc du coup c'est bien parce que ça fait aussi plus de discussions, quoi. Des fois t'as des gens qui vont dire ouais non mais le no-code c'est nul, ça sert à rien. Enfin tu vois, et ce que
Il y
t'as
a du
pas
débat,
vraiment dans
quoi.
Twitter. Ouais voilà, il y a un peu plus de débat et donc bon des fois c'est un peu stérile, mais quand même je trouve que c'est aussi intéressant, ça permet hein, d'avoir un autre regard, quoi.
Alors du coup, c'est quoi le bon endroit pour aller te suivre, si on veut s'intéresser davantage à ce que toi tu fais dans le no-code et à contournement? C'est LinkedIn du coup le bon endroit pour aller te suivre?
Non, alors moi malheureusement je suis très mauvais sur tout ça. Bah, je pense que ce que j'utilise le plus aujourd'hui c'est Twitter via le compte de contournement. Mon compte perso je l'utilise pas trop. Voilà, donc on communique hein, sur tous les réseaux. Mais le meilleur endroit en fait c'est pas tant de me suivre en fait, c'est plutôt de venir sur Slack par exemple et de venir me parler. Enfin, c'est là où je communique le plus à la communauté. C'est là où je suis le plus actif globalement. Et aussi, ce qu'on propose, c'est des office hours tous les vendredis après-midi, des créneaux de 15 minutes que n'importe qui peut réserver pour échanger avec nous, ou avec moi souvent. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir un échange, quoi, et d'essayer d'aider les projets, de faire des recommandations sur les outils, sur un petit peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure là, dans les conseils que je donnais. Bah, en fait, après, on essaie de faire des conseils un peu personnalisés et de recommander avec qui bosser, ou quelle formation suivre, que ce soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, hein, c'est pas un problème. Enfin, les nôtres, non, plusieurs, mais... Donc, ouais, voilà. Moi, je suis plus... Ce qui m'intéresse plus, à la limite, c'est que les gens viennent me parler, quoi.
Ok, écoute, on n'hésitera pas alors à te contacter dès qu'on a une question et puis à aller suivre ce que vous faites chez Contournement, à s'inscrire au Slack. Et en tout cas, un grand merci Alexis d'avoir accepté mon invitation, d'être venu aujourd'hui dans ce podcast de la No Code Family et puis à très bientôt du coup.
Super, merci beaucoup à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode de la No Code Family. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'imagine que le sujet vous a intéressé. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas non plus à nous laisser 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la No Code Family. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut !